tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Quand elle a épousé Ovila Bourassa, évidemment, Clara Christin ne se doutait jamais qu'elle finirait un jour étranglée par les mains de son mari. Et pourtant, le 4 avril 1900, à Montréal, au 332 rue de la Visitation, le drame survenait et Clara Christin a été étranglée par son mari. On l'a retrouvée dans son lit. Le procès de Bourassa s'est déroulé en deux jours seulement, donc les 14 et 15 juin 1900, au palais de justice de Montréal devant le juge Alexandre Lacoste. Selon les témoins de la défense, Bourassa soliloquait, en plus de présenter un comportement étrange. Soliloquer veut dire se parler à soi-même. Il avait cependant bon caractère et aimait venir en aide aux démunis. Selon le docteur l'Italien Perrault, qui a témoigné lors du procès, selon lui, l'accusé, et j'ouvre les guillemets, était un peu affecté. Il paraissait souvent très soucieux. Et Bourassa faisait usage de liqueurs alcooliques, même deux ou trois fois. Il l'a vu dans le délire. Le docteur ajoute aussi que Bourassa a déjà été interné à l'asile de Saint-Jean-de-Dieu, rien de moins, il y a 5 ans. Donc 5 ans auparavant, on se transporte à environ en 1895, dans ces eaux-là. Quand il a appris le crime, il s'est dit que c'était l'œuvre d'un fou. Il l'avait appris dans les journaux, mais il ne se doutait pas que c'était un de ses anciens patients. Pour sa part, le docteur Georges Villeneuve, c'est un des spécialistes en psychiatrie de cette époque-là, et c'est bien important de dire à cette époque-là, parce que les travaux de psychiatrie et en psychologie aussi ont évolué beaucoup depuis un siècle, disons-le. Lui a raconté que Bourassa avait été interné à Saint-Jean-de-Dieu du 31 janvier 1895, donc il est plus précis. Et il avait été placé dans le département des alcooliques. Donc, probablement qu'il avait été interné pour un gros problème de boisson. Donc, c'est pas juste nécessairement des fous, là. C'est ce que j'en déduis. On se servait peut-être même un peu de certaines portions, en tout cas des asiles, pour des centres de désintoxication. À cette époque, le docteur Laroche avait confié au docteur Villeneuve que Bourassa était un fou dangereux quand il était en boisson. Donc, si c'est vrai, ben, il avait un peu prédit le drame qui allait se dérouler le 4 avril 1900. En dépit des efforts de la défense, Bourassa a été reconnu coupable et condamné à être pendu le 24 août à la prison de Montréal. Durant le prononcé de la sentence, Bourassa est demeuré ferme, c'est ce qu'on dit, je le dis entre guillemets, et a sorti un crucifix de sa poche en disant « Le Christ sera mon juge, il connaît mes actes. » Oh là 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 là. Sans commentaire. Mais par contre, Bourassa n'a jamais été pendu pour le meurtre de sa femme, sa sentence a plutôt été commuée en emprisonnement à vie. Donc ici, si on récapitule un petit peu, ça se passe à Montréal, on a même l'adresse exacte. Et puis c'est un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. C'est sûr qu'il était un peu fêlé de la canisse, le monsieur, mais il ne semble pas avoir été suicidaire, donc par défaut, je l'ai mis dans la catégorie des non-suicidaires. Mais bref, ça passe ses proches peut-être là, qu'il aurait pu être acquitté pour folie ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais bref, c'est un autre meurtre par conjoint, malheureusement. Quelques mois plus tard, il y a un autre féminicide qui se produisait au Québec, donc en août 1900, cette fois-ci à Montebello, dans l'Outaouais. Ça commence avec l'histoire de Emma Fauteux. Elle, après avoir perdu un enfant en décembre 1899, elle a pris la décision de quitter son mari. Donc, on imagine peut-être une fausse couche, là, quelque chose comme ça. Mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase parce que son mari, qui s'appelait Stanislas Lacroix, celui-ci faisait preuve d'une grande jalousie maladive envers elle. Donc, un autre possessif, voyez-vous, ça se répète encore. Et pour ce faire, ben, elle est allée s'installer à Papineauville avant d'aboutir chez sa sœur à Montebello, dans la région de l'Outaouais. Au mois de juin 1900, donc il s'est passé quand même un certain temps. En juin 1900, Lacroix, lui, a dit « Confier à un ami, et j'ouvre les guillemets, « Ma femme ne mourra jamais autrement que par ma main. » Ça ressemble à des propos qu'on a déjà entendus, hein? Des propos de narcissique épouvantable, en tout cas. J'en perds mes mots, mais c'est ça, c'est des possessifs tellement qu'ils veulent pas que leur femme appartienne à personne d'autre si eux ne sont pas capables de l'avoir. Et lorsqu'on lui a répondu à Lacroix qu'un tel acte lui vaudrait la pendaison, il a tout simplement répliqué que ça va me faire rien de monter sur l'échafaud. Hein, voyez-vous, il était tellement dans un état autre que lui, ça ne dérangeait pas d'être condamné à mort pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Donc, il était quand même assez décidé. Et ce sera d'ailleurs, je le classe d'ailleurs parmi les conjoints suicidaires. Et vous verrez qu'est-ce qu'on a vu à l'épisode 2 à propos des conjoints suicidaires. Ça va peut-être vous revenir, entre autres, l'utilisation d'armes à feu, n'est-ce pas? Donc, tout se passe au matin du 24 août 1900. Lacroix a commencé à boire de grandes quantités d'alcool ce matin-là avant de se diriger chez Rose Delima, donc la sœur d'Emma. C'est là qu'elle s'était réfugiée. Donc, il a commencé par prendre un coup solide pour se donner du courage un petit peu. Parce que peut-être qu'à jeun, si on lui avait interdit l'alcool, est-ce qu'il aurait commis son forfait? Peut-être que tout cela se serait jamais passé. Bref. Bon, avant d'arriver sur place, il a emprunté 3$ au chef de gare pour acheter un revolver de calibre 32 à canon court et 50 cartouches. Voyez-vous, ça coûtait pas cher les revolvers dans ce temps-là. 3$ avec les balles incluses. On dirait la vente à 1,44 chez Woolco. À une certaine époque, il y en a qui vont s'en rappeler. Tout ça pour dire qu'effectivement, la facture s'est élevée à 2,75 $. Tout ça pour aller tuer du monde, ça coûte pas cher. Pendant ce temps, Emma s'est réfugiée. Je ne sais pas comment elle a appris que Lacroix s'en venait. Elle s'est réfugiée chez une voisine, mais Lacroix a réussi à la retrouver. Donc, elle était en compagnie de son poupon, Clémentine, donc son bébé, qu'elle avait dans les bras à ce moment-là, la petite Clémentine. Et il y avait quelques autres personnes aussi autour d'elle, donc il y avait beaucoup de monde qui était au courant de ce qu'elle vivait. Et quand Lacroix s'en venait, ben, tout le monde se doutait, on savait déjà qui il était. Et parmi les personnes qu'il y avait autour d'elle, il y avait une veuve de 73 ans, Philomène Loriot, aussi 60 ans, et Hippolyte Thomas dit Tranchemontagne, âgé de 65 ans. Et ce pauvre malheureux sera victime aussi de la rage de Lacroix. À l'arrivée de Lacroix, Emma s'est réfugiée dans une chambre avec son bébé dans les bras, mais il l'a rattrapé évidemment, puis il l'a empoigné pour la traîner dehors. En tout cas, ça a été une crise épouvantable. Et une fois dehors, pourquoi dehors? C'est vraiment difficile à dire. Peut-être qu'il voulait faire ça devant tout le monde. C'est là qu'il l'a tiré à 3 reprises à bout portant. Et Emma, malheureusement, est morte sur le coup. Elle s'est effondrée et avec la petite Clémentine coincée sous son cadavre. Donc, on imagine l'horreur. La petite, le petit bébé n'était pas mort, mais elle était prisonnière sous le corps de sa mère. Ensuite, Lacroix est retourné dans la maison parce que semble-t-il que le fait de voir sa femme tomber morte à ses pieds, c'était pas un choc assez grand pour le réveiller puis le faire passer à autre chose. Il était encore crinqué, comme on dit. Il continuait, lui, dans sa folie meurtrière. Puis, on ne sait pas à partir de quand, mais il s'était mis à croire que le vieux Tranchemontagne était devenu l'amant de sa femme. Là, il voyait des amants partout, peut-être, là. Un petit peu de paranoïa de ce côté-là. Donc, il est allé tirer sur lui également. Et le vieil homme a réussi à se traîner dehors avant de s'effondrer à son tour. Donc, ça fait 2 victimes. Il y a Emma Fauteux et Hippolyte Thomas dit Tranchemontagne qui sont victimes de Lacroix cette journée-là. Donc, c'est pour dire que la motivation des conjoints suicidaires ou non peut entraîner la mort de d'autres personnes. C'est pas nécessairement juste l'épouse. On l'a vu aussi avec l'affaire Elsehorman qui avait fini par tirer sur sa belle-mère, mais il s'en allait là pour régler ses comptes avec son épouse. Donc voilà, c'est quand même pas rien, mais il faut toujours s'en tenir à la motivation principale, initiale, si je peux dire. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est que la motivation initiale, ben c'est le conjoint meurtrier, là. Il voulait en finir avec sa femme et probablement en finir avec lui. Malheureusement, oui, j'ai bien dit malheureusement, il s'est pas suicidé sur place. Mais il y avait quand même un comportement suicidaire. Le procès de Lacroix s'est ouvert le 18 décembre 1901 au nouveau palais de justice de Hull. L'accusé a été déclaré coupable et il a été pendu le 21 mars 1902. Avant de mourir, Lacroix a crié publiquement que la justice ne gagnerait pas contre lui et qu'ainsi, il se suiciderait avant le grand jour. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai classé dans les conjoints suicidaires, évidemment. Mais quand il a dit ça, c'est sûr que le personnel carcéral a pris des précautions justement pour éviter qu'il se suicide et qu'il meure selon les bonnes grâces de la justice, donc c'est-à-dire au bout de la corde. Alors voilà un autre homicide domestique par un conjoint suicidaire, et dans ce cas-ci aussi, c'est par arme à feu. Vous aurez remarqué que c'est probablement un des rares cas, et je crois que c'est le seul qui a été commis par un conjoint suicidaire, mais à l'extérieur de la demeure de la victime, si on veut. Mais encore là, ça laisse place à interprétation parce que la victime, c'était son nouveau logis. Donc, Emma Fauteux s'était débarrassée de son mari, elle pensait en tout cas, et elle était allée vivre ailleurs. Donc, pour elle, c'était sa maison à elle, donc son foyer et tout ça. Donc, c'est pour ça que je le considère, encore une fois, la victime est abattue chez elle. Je dis abattue, mais ça peut être de différentes façons. Mais encore une fois, la victime, la scène de crime se passe chez la victime. Le 16 mars 1901, vers 20h le soir, Valérie Charbonneau, épouse de Louis Lefebvre, a été assassinée d'un coup de revolver à l'intérieur de son magasin. Et précisons tout de suite que ce magasin-là se situait précisément au 3168 de la rue Notre-Dame, à Sainte-Cunégonde, à Montréal. Entre autres choses, c'était une boutique où elle offrait des bonbons et des cigares à vendre. Et ici, l'histoire commence, ou plutôt se termine, avec Joseph-Ernest Laplaine, qui est allé se livrer à la police immédiatement après son crime. C'est lui qui dit finalement qu'il est allé tuer Valérie Charbonneau. Selon les journaux de l'époque, il était marié, mais vivait séparément de sa femme. En fait, il pensionnait chez sa victime depuis 2 ou 3 mois. Donc, c'était un des pensionnaires de Valérie, donc il se connaissait assez bien. Et dans une lettre qu'il a écrite le midi et qui a été retrouvée sur lui au moment de son arrestation, Laplaine qualifiait Valérie comme de son amante ou de sa maîtresse. Ce serait le mot le plus juste, je pense. Le procès de Laplaine s'est ouvert le 26 septembre 1901. La défense a plaidé la folie. Sans trop de surprise, ce serait de plus en plus populaire d'ailleurs. Ce qui a amené encore une fois le docteur Georges Villeneuve, surintendant de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à examiner Laplaine du 26 juin au 4 juillet. Il en est arrivé, lui, à la conclusion que l'accusé savait très bien ce qu'il faisait. Donc, il n'était pas fou. Il savait ce qu'il faisait. Il a aussi déterminé que Laplaine se pensait irrésistible auprès des femmes, rien de moins. Là, je me demande pourquoi il n'est pas allé en séduire une autre au lieu de tuer celle-là. Mais bon, bref, il croyait aussi à certaines choses surnaturelles, donc il avait un peu l'esprit un peu léger. et il se qualifiait de supérieur. Donc, personnalité qu'on dirait aujourd'hui probablement assez narcissique, assez prononcée. Le procès a aussi permis de soulever qu'il pouvait travailler comme détective privé à l'occasion et qu'il transportait parfois une arme de poing sur lui. Donc, c'est pour ça qu'il avait le droit un peu, lui, de se promener avec un revolver. La plaine a été reconnue coupable. À quelques heures de son exécution seulement, il aurait confié à son confesseur, parce qu'il y avait toujours, les profanes, il y avait toujours un prêtre là, qui accompagnait, surtout dans les derniers temps, la dernière journée, la dernière nuit, qui accompagnait les condamnés, tout ça, pour les confesser. Et, bon, bref, vous aurez deviné tout ce qui pouvait se dire là. Et bon, à son confesseur, c'est de ça qu'on parle, il lui aurait confié qu'il n'avait jamais passé une aussi bonne nuit. Voyez-vous, lui, il était avoir de l'air heureux de s'en aller au bout de la corde. Bref, il a été pendu à 8h09 le 13 décembre 1901. Donc, c'est un autre, encore une fois, un homicide par un conjoint non suicidaire, par arme à feu. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut préciser, c'est que Valérie n'a pas été tuée par son mari, parce que son mari s'appelait Louis Lefebvre. Mais bon, par la plaine, lui était pensionnaire. On a prouvé qu'il était pensionnaire, mais j'ai l'impression qu'il se faisait des idées. C'est peut-être un des seuls cas d'ailleurs qu'il... Parce qu'on ne sait pas si Valérie avait accepté, est-ce qu'elle était vraiment sa maîtresse ou pas. Ça, c'est lui qui le dit dans ses écrits avant de mourir. Mais si toutefois elle ne l'était pas, ben lui s'imaginait qu'il l'était, qu'il était avec elle, dans le fond. Donc, c'est pour ça que je disais dans une précédente balado que c'est important aussi d'intégrer, quand on dit conjoint, ça, on inclut aussi les ex-conjoints et ceux qui pensent être le conjoint d'une personne. C'est rare, mais il y en a qui font tellement de... Ils se font tellement de scénarios et d'histoires qu'ils s'imaginent avec la personne. Et finalement, il y a quelque chose qui leur fait réaliser à un moment donné que c'est pas le cas. Ou qu'elle veut rien savoir, ou bon, bref, la moindre petite dispute, puis là, paf, il pète une coche. Mais voilà, fait que c'est pour ça que... Mais c'est quand même un meurtre par un conjoint, et dans ce cas-ci, ben, on n'a pas pu prouver qu'il était suicidaire, donc c'est un non-suicidaire. Cette fois, on se transporte à Montmagny, dépassé sur la rive sud du fleuve, dépassé Québec, le 20 août 1902. Une dame du nom de Omblin de Champlain a été poignardée à mort par son mari, Joseph Mathurin. Lui, Mathurin, il était ferblantier et plombier, et on le disait âgé de 33 ans. Son procès pour meurtre s'est déroulé du 19 au 27 décembre 1903 à Montmagny, devant le juge Cyrias Pelletier. Évidemment, il a été reconnu coupable et son exécution a d'abord été fixée au 24 avril 1903 avant que sa peine soit, elle aussi, commuée en emprisonnement à vie. Donc, il s'est en allé vers un aller simple au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul dans la région de Montréal. Et donc, il a évité la corde. Tout ça pour dire, je fais une petite nuance ici, ou pas une petite nuance, mais une petite remarque, que, bon, à une certaine époque, les conjoints... meurtriers, ben certains d'entre eux pouvaient être pendus, tout simplement, et ça pouvait, dans certains cas, rendre justice à l'entourage de la famille. On n'a pas vraiment des commentaires à cette époque-là des familles ou de l'entourage des victimes. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'un conjoint violent et tout ça, est-ce que vous seriez plus pour la peine de mort ou non? Évidemment, les conjoints aujourd'hui qui tuent leur conjointe ou conjoint ne sont pas pendus. La peine de mort n'existe plus depuis 1976. Mais c'est quand même intéressant de voir la différence des sentences. Et vous allez voir que plus on avance, plus les sentences vont s'alléger. Peut-être pas à votre bonheur, comme on dit. Il y en a qui s'en sont sortis quand même assez bien, malheureusement. Dans la presse du 9 janvier 1903, au moment où Maître Lane portait la cause en appel, on a décrit Mathurin comme ceci. Il a engraissé un peu, mais son œil hagard est toujours perdu dans le vide. Donc, c'est peut-être... je sais pas si c'est un bon signe. Il fait deux, trois fois qu'on voit ça des prisonniers. Après un certain temps, ils réapparaissent au moment de leur procès puis ils ont engraissé. Fait que j'imagine qu'ils étaient quand même plutôt bien nourris dans les prisons. Je sais pas. Je vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, c'est curieux. Il y en a qui m'ingraissent puis il y en a qui engraissent. Bref. Ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai réussi à retracer une certaine information un demi-siècle plus tard. Eh oui, on se transporte en 1949 dans le journal Le Canadien français, plus précisément son exemplaire du 17 mars 49. On annonçait la mort de Mathurin en ces termes. Et ici, je vais ouvrir les guillemets parce que je pense que ça vaut la peine. Mardi, le 15 courant, est décédé après une courte maladie, M. Joseph Albert Mathurin, autrefois de Montréal, veuf de Omblines de Champlain, à l'âge de 79 ans et 6 mois. Il laisse dans le deuil un fils, Hormidas, de cette ville, c'est-à-dire Saint-Jean, chez qui le défunt habitait ses derniers mois. Une fille, Mademoiselle Bernadette de Montréal, 5 petits-enfants, Raymond, Suzanne, Roger, Denis, celui-ci chez les frères Maristes à Montréal, et Yvon Mathurin. Ses funérailles ont eu lieu vendredi matin à 9h en l'église Notre-Dame Auxiliatrice. Nos sympathies à la famille éprouvée. Je pense que le journal ne savait pas de qui il était question à cette époque-là, mais tout de même, on a fait sa nécrologie. Et c'est quand même certain que c'est lui, parce qu'on parle de sa veuve, Omblines de Champlain, donc qui a été sa victime. Il semble s'être remarié, peut-être, ou c'était les enfants qu'il avait eus avec Omblines, qui sont restés quand même auprès de lui, dont un qui a pris soin de lui jusqu'à la toute fin. Donc voilà, c'est un condamné à mort qui finit plutôt bien. Donc, c'est sûr qu'il semble s'être réhabilité aussi, ce qui est excellent. Parce qu'il faut croire, comme société civilisée, c'est toujours préférable de croire en la réhabilitation. Ça semble être le cas de beaucoup là, pour ce qui est des crimes personnels. Dans les crimes par entreprise criminelle, on peut en douter. On va voir sur d'autres balados pourquoi et tout ça. C'est plus des criminels d'habitude dans cette catégorie-là, mais évidemment, sous le coup de l'émotion, il tue sa femme et tout ça. C'est sûr que c'est dur à pardonner. Les femmes sont victimes. On voit ça comme des victimes plus fragiles, plus qu'on devrait pas finalement là, qu'on devrait pas faire ça. C'est en tout cas, les mots me manquent, désolé, mais. Mais quand même, c'est ça, le condamné, le tueur a quand même le droit à sa réhabilitation. Je sais que des fois, ça peut être choquant, ça peut être troublant même. Bref, ça devient ambigu sur ce qu'on doit penser. Il y en a qui ont des idées plus arrêtées. Moi, j'aime ça, me laisser un peu divaguer puis de ne pas être certain, surtout sur des sujets comme ça. Là. Je veux dire, à la lecture d'un procès, je sais très bien que mon opinion va être faite à la fin, là, puis ce ne sera pas un problème quand j'étudie un dossier judiciaire, mais sur des questions comme ça, plus sociétales, je sais pas, comme sur la peine de mort, par exemple, est-ce que je dois être pour ou être contre? Je sais pas. Je veux pas dire tout ce que je pense, là, je veux pas influencer personne, c'est surtout ça. Mais la question revient à l'occasion, surtout quand c'est des meurtres violents, et quand ça concerne des enfants, on dirait qu'on laisse moins passer aussi. Et bon, mais ici, avec les victimes féminines, le féminicide, tout ça, on voudrait que ça s'arrête, c'est sûr, mais bref. Après la mort de son premier mari, qui était policier, Agnès Marié a de nouveau convolé en juste noces, cette fois avec un dénommé Magloire Hogg. Le couple s'est installé ensuite au 209 rue Montcalm à Montréal. Et depuis octobre 1903, il y a un couple aussi du nom de Fréchette qui a loué une chambre à l'intérieur de leur maison. Donc, il arrivait des fois que les maisons étaient tellement grosses qu'il fallait sous-louer les chambres et tout ça. Donc, voilà, c'est pourquoi que le couple Fréchette est devenu un peu les voisins du couple Hogg et Marié. Donc, je le précise, étant donné qu'elle avait connu un premier mariage, Agnès Marié était âgée de 45 ans. Le 12 avril 1904, Agnès ne quittait plus son lit déjà depuis un certain temps à cause apparemment de la maladie. Quelle maladie elle avait, on l'ignore. Mais ce soir-là, vers 23h30, le constable Lorrain patrouillait sur la rue Montcalm quand un certain Zénophile Loisel, le fils d'un boulanger, est venu le trouver. Là, lui, il était désemparé, il était nerveux. Et Loisel a demandé de venir immédiatement au 209 rue Montcalm, puisque, selon lui, Madame Hogg venait d'être assassinée. Fait comme « OK, good ». C'est spécial, ça. Fait que le policier a dû être surpris, mais il n'y avait pas de raison de ne pas croire non plus le citoyen en question. Donc, Lorrain l'a suivi tout bonnement. Et effectivement, ils ont découvert le corps d'Agnès dans son lit. Ce qu'on retient de la scène de crime au 209 rue Montcalm, à Montréal, c'est qu'il y avait une lampe déposée sur un bureau qui éclairait encore la scène. Ça, on a réussi à noter cela. En tout cas, du moins dans les journaux, parce que j'ai pas lu le dossier judiciaire dans ce cas-là. Immédiatement, le constable a verrouillé la porte de la chambre avant de contacter ses collègues du poste numéro 3. Évidemment, il a bien fait. Il a comme scellé la scène de crime. Donc, voyez-vous, ici, on est en 1904. C'est quand même un détail important. Il y en a qui ont... on a vu des fois dans différents commentaires qu'on ne prenait pas soin de la scène de crime, mais là je parle de choses qui se sont déroulées dans les années 60, 70, 80, là, puis là on critiquait la police, la scène n'a pas été protégée. En tout cas, moi je vous dis ici qu'en 1904, ils l'ont fait. Donc avec les moyens du bord évidemment, on barre la porte, puis that's it, on touche plus à rien. Pendant ce temps, il y a d'autres policiers qui cherchaient évidemment, parce qu'à cette époque-là aussi, il faut dire que les policiers patrouillaient les rues la nuit. Même le jour aussi, le à pied. Alors, imaginez-vous le Montréal avec des policiers qui se promènent dans tous les quartiers. Ça rassurait les gens. Il y avait toujours un policier qui était quand même assez près de tout le temps. Là. Tu sais, c'était quand même. On n'avait pas besoin de courir tellement loin pour aller en chercher un. Évidemment, là, on parle avant l'arrivée bien avant l'arrivée des téléphones cellulaires et même du téléphone ordinaire. Fait que imaginez-vous donc. Alors, voilà. Fait qu'il y a d'autres policiers qui sont venus lui prêter main forte. Et eux, ben, ils ont cherché un peu autour de la maison, là, dans la noirceur et tout ça. Et ils se sont mis à entendre des gémissements. Et ces gémissements-là, ils ont conduit jusqu'au hangar situé derrière la maison, dans la cour. Et c'est là qu'ils ont découvert Magloire Hogg, le fameux monsieur Hogg, 48 ans. Et il était complètement ivre à ce moment-là. Il était mou comme de la guenille, comme on dit en bon québécois. Puis on l'a conduit. Les policiers, c'est ce qu'ils ont décidé à l'époque. Ils ont dit « Hey, mon petit pit, on va te mettre le nez dans ton caca. On va aller te montrer ce que t'as fait. » Donc, ils l'ont conduit jusqu'à la chambre de la scène de crime. Et devant le cadavre de son épouse, tout simplement, ils ont dit « Regarde ce que t'as fait. » Et puis là, ben, ils n'ont peut-être pas dit ça de même, là, j'exagère. Mais en ouvrant la porte, lui, sa seule réaction qu'il a faite, c'est qu'il a baissé la tête et il a pleuré. La victime, qui ne portait qu'une chemise de nuit et une jupe noire dans ses pieds, des bas noirs et une claque dans son pied gauche. Bon, je ne peux pas en dire plus. Elle était étendue sur le dos, dans le lit, toujours, comme on a dit tantôt, par-dessus les couvertures d'un lit en désordre. On écrit aussi que la victime avait eu l'artère jugulaire tranchée d'un coup de couteau. L'assassin l'avait également frappé à deux ou trois endroits près de la gorge, donc il s'acharnait quand même au niveau du cou. Les draps étaient évidemment maculés de sang, tout comme les mains de Hogg. Donc, c'est premier, pas le premier, mais c'est un autre indice important contre lui. Et il n'y avait aucune trace de lutte dans la pièce. Donc, comment ça s'est produit concrètement, le crime, c'est difficile à savoir et on s'en irait tout de suite vers de la spéculation en essayant de le faire. Mais on peut quand même imaginer que si elle n'a pas eu le temps de se défendre, Ça s'est passé subitement alors qu'elle s'en doutait pas. Donc, est-ce qu'elle dormait ou est-ce qu'elle était dans un état d'esprit, qu'elle était allongée avec lui ou pas, ou bon, bref. Voilà, comme je vous disais, aussitôt qu'on essaie de spéculer, qu'on n'a pas assez de détails, c'est dangereux. Et c'est là que les fraîchettes entrent en ligne de compte, parce qu'ils ont été témoins quand même de certaines choses, et selon eux, ben, Hogg buvait beaucoup depuis quelque temps. Donc, c'en est un autre qui aimait la bouteille. Voyez-vous, la bouteille, à cette époque-là, ça aidait pas. Ça semble être un élément même qu'il faudrait... Faudrait regarder de plus près pour savoir si ça se répète jusque au meurtre, au féminicide d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut même penser, est-ce que la drogue est en ligne de compte aussi? Mais je pense que ce serait un élément important à vérifier pour la plupart des cas, en tout cas dans ceux que l'on peut. Et bon, c'est ça. Et ça l'affectait évidemment son couple, là. C'est pas une grosse surprise. Et selon les fraîchettes, le soir du drame, ben, il avait fait irruption dans la chambre à coucher des fraîchettes en premier pour leur avouer qu'il venait de tuer sa femme tout en roulant des yeux, l'air désemparé. Donc voilà, c'est comme ça que les fraîchettes ont su qu'il s'était passé quelque chose. Donc, bref, il n'y a personne qui n'a rien entendu. À l'arme blanche, c'est souvent le cas d'ailleurs. Dans les vêtements de M. Hogg, les policiers ont retrouvé un couteau de poche qui portait l'inscription « Roger » et quelques traces rougeâtres qu'on imagine être du sang. Mais à cette époque-là, je pense que tout ce qu'on pouvait faire comme analyse, c'était de savoir si c'était du sang humain ou animal. On ne pouvait pas encore trouver le groupe sanguin. Bref, on y reviendra dans ces choses-là. Il y a un journaliste du journal La Patrie qui a réussi à demander au prisonnier s'il avait bien dormi. Une drôle de question. Mais oui, assez bien, c'est ça qu'il a répondu, Monsieur Hogg. Quand on lui a demandé s'il savait qui avait tué sa femme, ça, une question peut-être un peu plus subtile, le principal intéressé a tout nié tout d'un coup. Ah, là, c'est plus lui. Puis il a affirmé être sorti, c'est son histoire en tout cas, qui a commencé à décrire ou à inventer au fur et à mesure. Il affirmait être sorti en soirée faire une promenade et avoir découvert le corps de sa femme à son retour vers 20h. Par ailleurs, l'enquête policière a permis d'apprendre qu'Agnès était la propriétaire de la maison. Donc, la maison du 209 rue Montcalm, c'est à elle que ça appartenait. Il n'y a aucun enfant qui a été issu de ce mariage-là. Donc, les enfants qu'elle avait eus, elle les avait eus de son premier mariage. Et c'est peut-être tant mieux comme ça. Devant le coroner, Hogg a semblé indifférent. Tout ce qui se passait autour de lui, là, c'est comme si ça n'existait pas. Là. Il était ailleurs, finalement. C'est même à se demander s'il se rendait compte des conséquences ou de tout ce qui était en train de se produire autour de lui. Là. Selon le docteur Dugas, qui a pratiqué l'autopsie en compagnie de son collègue, le docteur McTaggart, à cette époque-là, avant l'arrivée du docteur de Rome, on va voir, là, c'est surtout ces deux-là, et en particulier le docteur McTaggart qui œuvrait dans la région de Montréal principalement. Il a expliqué que la rigidité cadavérique laissait croire que la mort remontait à plusieurs heures. Oh! M. Hogg n'avait pas prévu que la science médicale, la science judiciaire, viendrait le contredire. On a constaté aussi que la victime portait 5 blessures sur le côté gauche du cou. 2 de ces blessures avaient 2 pouces de longueur et les 3 autres quelques lignes seulement. Sur le cou, on remarquait aussi quelques ecchymoses produites par une forte pression de doigts. Bon, ça veut dire qu'il avait peut-être essayé dans un premier temps de l'étrangler. Et contrairement à ce qu'on pense, je vous dis ça comme ça, mais parce que je l'ai lu à plusieurs places et entendu, par des sources sûres, c'est difficile d'étrangler quelqu'un. Je le dis pas parce que je l'ai essayé. Mais il faut tenir une pression de 3 à 4 minutes à peu près pour que la personne meure. Donc, c'est pas évident. Et c'est peut-être ça qui est arrivé. Souvent, c'est ce qui arrive. L'agresseur relâche et puis là, la personne se remet à respirer et là, oups, il se surprend et choisit de prendre un autre instrument pour finir ce qu'il avait commencé. Donc, bref, on a aussi finalement l'arrière carotide, donc la carotide arrière a été perforée, faisant une ouverture jusqu'à la gorge. Donc, c'est ça qui a tué madame, finalement, madame mariée. Donc, vous vous doutez bien que M. Hogg a fini par être accusé officiellement et avoir son procès. Et son procès qui a eu lieu au Palais de justice de Montréal du 15 au 19 septembre 1904 devant le juge Aldéric Ouimet. Au matin du 19 septembre, donc la dernière journée du procès, le jury a délibéré durant 30 minutes avant de revenir avec un verdict de culpabilité. Hogg a de nouveau fondu en larmes. Bon, il s'est mis à pleurer comme un gros bébé. Un mouchoir sur son visage. Donc, est-ce que c'était sincère, ces larmes de crocodile-là? C'est difficile à dire, surtout qu'on n'y était pas. Après le prononcé de la sentence, qui fixait son exécution au 18 novembre 1904, donc il lui restait plus beaucoup de temps, eh bien, le condamné a été escorté hors du prétoire par deux gardes alors qu'il sanglotait toujours. Donc, pauvre petit pète. Mais ce qui est curieux dans cette journée-là, bon, il était condamné à mort la même journée, il pleurait comme un enfant, mais le soir, oh, plus aucune larme, et ça a l'air qu'il a mangé avec appétit, et qu'il a dormi comme un bébé. C'est sûr que ça épuise, hein, un verdict de mort, là, quand on annonce qu'on va mourir, c'est tellement épuisant, là, que ça fait dormir, j'ai l'impression. Mais bon, finalement, il n'a jamais été pendu. Sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Donc, on va terminer l'épisode d'aujourd'hui avec ce meurtre-là, malheureusement. Agnès Mariée, qui a été victime d'un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Et cette fois-ci, comme on l'a vu, ben, c'était une arme blanche qui a été utilisée. Comme on l'a vu dans l'épisode 2, ben, souvent... Les conjoints non suicidaires, c'est eux qui vont utiliser les armes les plus diverses, si on veut. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On termine en 1904 avec Agnès Mariée. Et on va se transporter au prochain épisode en 1911, en novembre 1911, pour être plus précis, avec le meurtre d'Isabella Cameron. Alors, merci. Bonne soirée. C'était une autre balado de mémoire d'archives. Si vous avez des suggestions à me faire, écrivez-moi à eric.veillette@hotmail.ca. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.